Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale, le tribunal de La Haye a reconnu coupable ce lundi l'ancien chef de guerre congolais Boston Ntaganda de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des exactions commises en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. La Chambre considère Bosco Ntaganda coupable de meurtre, de viol, d'esclavage sexuel, de persécution et de pillage en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité, et aussi d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre les civils, a précisé le juge Robert Fremer lors d'une audience aujourd'hui. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda a personnellement exécuté un prêtre et il est reconnu coupable d'avoir commandité des viols de femmes et de filles, dont une âgée seulement de 9 ans, a ajouté le juge qui n'a pas prononcé de peine. La peine sera annoncée au cours d'une prochaine audience, a souligné le magistrat. Visite officielle en République centrafricaine de la ministre française des Armées, Florence Parly. Un pays en proie à des violences persistantes malgré un accord de paix signé en février. Madame Parly doit s'entretenir avec le président Faustin Archange Touadéra et la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara. Au menu des discussions figurent notamment les démarches entreprises par la France auprès de l'ONU pour assouplir l'embargo sur les armes et faciliter l'équipement des forces armées centrafricaines chargées de restaurer l'autorité de l'État dans le pays. Retour sur le sommet extraordinaire de l'Union africaine ce week-end à Niamey au Niger. Il a été essentiellement consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, un vieux projet de l'organisation panafricaine ressuscité par le président rwandais Paul Kagame. Ce projet porte sur la création d'un vaste marché africain de plus d'un milliard d'habitants. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, nous résume les décisions prises au sommet de Niamey.
C'est le Ghana qui va abriter le siège de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF. L'arbitrage a été rude entre les chefs d'État réunis ce dimanche à Niamey pour retenir le pays de Kwame Nkrumah face à l'Égypte ou encore le Kenya. Autre décision de ce sommet, c'est la date retenue pour le début des échanges dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, hôte du sommet.
Cette date, c'est le 1er juillet 2020. Donc nous prendrons toutes les dispositions pour qu'au 1er juillet 2020, les échanges entre nos pays se fassent dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. La quatrième décision importante qu'il faut noter, c'est que nous avons adopté une journée de l'intégration africaine. Cette journée, ça sera le 7 juillet, pour commémorer chaque année l'importante journée que nous avons vécue.
Beaucoup de défis restent cependant à relever pour une effectivité de cette zone de libre-échange continentale voulue par les pères fondateurs de l'OIA, sécurité, infrastructure ou encore la question des barrières douanières. Tous ces défis sont surmontables, estime le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat.
Au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en ordre de bataille pour progressivement lever tous ces obstacles et ouvrir l'Afrique aux Africains. Je sais que cette jeunesse est capable. Les gens qui quittent ici le Niger, qui quittent le Mali pour aller jusqu'au Sahel à pied, et cela depuis plusieurs siècles, sont capables de faire des miracles. Il faut qu'on leur en donne les moyens.
Le lancement de cette zone de libre-échange continentale africaine à Niamey aura aussi été marqué par la signature de l'accord par deux des trois pays encore réfractaires sur les 55 États africains. Le Nigeria, première puissance économique du continent, et le Bénin. Noël Koussi Koumba, ambassadeur de la République du Bénin au Niger.
Ah, c'est une grande joie. C'est une grande joie. On n'avait jamais dit qu'on ne ferait pas ça. On disait qu'on va le faire en temps opportun. C'est ce temps porteur là que nous avons à le faire. On a vu tous les contours, on a trouvé que c'est très bon, qu'il fallait le signer.
Le Bénin a signé, il reste la ratification, vous la prévoyez pour quand?
On déterminera, ça sera très bientôt.
Le but de la zone de libre-échange continentale africaine est d'éliminer d'ici 10 ans les droits de douane sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires à travers la création d'un marché commun dont le potentiel de consommateurs va au-delà du milliard d'habitants. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA. VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Violence au Mali, fin de la tournée du Premier ministre Boubou Cissé dans le centre du pays, région en proie à des violences intercommunautaires. Le chef du gouvernement malien préconise plus de maillage sécuritaire et un dialogue entre protagonistes locaux pour stopper les affrontements entre groupes rivaux. À Douenza, ultime étape dimanche de sa tournée entamée le 3 juillet, Boubou Cissé a annoncé de nouvelles garnisons dans la région. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Monsieur Cissé avait lancé jeudi une opération de distribution gratuite de 8000 tonnes de céréales aux populations en insécurité alimentaire de la région, après avoir souligné, je cite, le lien entre les violences sur le terrain et l'insécurité alimentaire. Le nombre de personnes déplacées internes fuyant ces violences a quasiment quadruplé dans les régions de Mopti et de Ségou entre mai 2018 et mai 2019, passant de 18 000 à 70 000. Nos forces vont se déployer sur le terrain. Au total, ce sont 3500 hommes qui vont monter. Sur les 7 derniers jours, il y a déjà 1500 militaires arrivés dans la région, avait déclaré le chef du gouvernement malien. À Bandiagara, un fief des Dogons, Boubou Cissé a réaffirmé samedi sa ferme détermination à apaiser les tensions communautaires. Le Premier ministre a facilité une rencontre des vrais acteurs de la crise. Il y a désormais de l'espoir, a déclaré dimanche Bokari Sangara, député de Bandiagara. Des chefs des communautés Peul et Dogon se sont rencontrés pour continuer sur le chemin de la paix et ont prévu de se rendre prochainement ensemble sur le terrain pour faire baisser la tension, selon des participants à ces rencontres.
Violence au Nigeria. Des hommes armés ont effectué des incursions dans 3 villages de l'état de Katsina dans le nord du pays, tuant 6 personnes au cri d'Allahu Akbar, a déclaré ce lundi Gambo Issa, un porte-parole de la police. Les bandits à bord de moto ont attaqué les villages de Makers, Dansabaou et Parwa dans le district de Kankara à la fin de la journée dimanche. Selon Gambo Issa, ils étaient vêtus de noir et scandaient Allahu Akbar, un slogan généralement utilisé par les djihadistes pendant leurs attaques. Des bandes de voleurs de bétail et de ravisseurs opèrent dans le nord-ouest du Nigeria et on s'inquiète de leur infiltration par des islamistes. Crise migratoire, Malte a annoncé dimanche que ses forces armées allaient acheminer dans un port maltais les 65 migrants se trouvant à bord du navire d'une ONG allemande. Les étrangers seront tous immédiatement répartis entre plusieurs pays européens. Jean-Roger Bion.
Le Premier ministre maltais Joseph Muscat, qui a eu des discussions dimanche avec la Commission européenne et le gouvernement allemand, a précisé qu'aucun de ces migrants ne resterait dans son pays. Au moins la moitié d'entre eux seront accueillis par d'autres pays, a précisé Joseph Muscat, parlant d'un signe de reconnaissance de la bonne volonté du gouvernement maltais. Malte avait interdit dimanche matin l'entrée du navire dans ses eaux territoriales. Les forces armées maltaises ont par ailleurs porté secours dimanche à un groupe de 58 autres migrants qui se trouvaient sur une embarcation en train de couler dans leur zone de secours en mer. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères d'Italie et de Malte, Enzo Moavero et Carmelo Abella, appellent à créer un mécanisme permanent au niveau de l'Union européenne qui affronterait l'ensemble des questions sensibles concernant les migrations, un point inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne en juillet. Pour eux, il n'est plus admissible de continuer à procéder au cas par cas en cherchant des solutions dans l'urgence.
Coupe d'Afrique des Nations en Égypte maintenant. Ce soir, on aura tous les détails sur les quarts de finale de la CAN 2019 à l'issue de 2 gros duels. À 16h, temps universel, affrontement Mali-Côte d'Ivoire. Et puis à 19h, TU, les Ghanéens finalistes en 2015 et quadruple vainqueur de l'épreuve portent favoris en soirée face aux Tunisiens. La Tunisie sait qu'elle devra faire preuve de créativité face aux Black Stars du Ghana. C'est ce qu'affirme le coach des Aigles tunisiens Alain Giresse.
C'est un match important, c'est un huitième de finale. Tout l'espoir, évidemment, est là pour se qualifier. Effectivement, ça serait décevant de s'arrêter à ce stade de la compétition, effectivement. Nous avons toujours ce problème de la création du secteur offensif où nous devons être meilleurs dans ses capacités à produire du jeu et surtout se produire des possibilités de marquer et d'avoir ces occasions. Donc ça, c'est notre problème à l'heure actuelle.
Alain Giresse, le coach des Aigles tunisiens. Et pour terminer, les Américaines ont remporté un 4e mondial féminin de football en battant les Pays-Bas en finale 2-0 à Lyon en France. La team USC survole le football féminin avec 4 Coupes du Monde, 1991, 1999, 2015 et 2019. Merci de votre attention.